Alors, ce matin, donc, j'ai une troisième question fondamentale qui va s'afficher sur l'écran. Après avoir répondu, en quelque sorte, à la question « Pourquoi prier ?», après avoir réfléchi à la question « Comment connaître la volonté de Dieu ?», ce matin, c'est la question « Quelle est la religion que Dieu n'aime pas ?» Une question presque avec un peu de provocation. Mais est-ce que toutes les religions sont bonnes ? Est-ce que toutes les religions ne sont pas pareilles? Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Que pense Jésus des religions, des gens religieux? Que pense Jésus des mouvements religieux, sectaires aussi? Y a-t-il des religions que Jésus n'aime pas? Eh bien, oui. Et Jésus lui-même donne une liste de caractéristiques des religions qu'il rejette. Alors, je suis content de vous dire que ce que je vais dire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus lui-même qui donne plusieurs caractéristiques des religions qu'il n'aime pas, qu'il rejette. Alors, je vous invite à trouver dans l'évangile de Luc, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai eu un peu chaud, quand Jean-Rubin a dit, on va lire dans l'évangile de Luc. Lui, il a lu dans le chapitre 10, moi, c'est au chapitre 11. Mais une fois que j'étais invité à prêcher dans une église, et le président a lu mon texte. Je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé par la suite, mais en tout cas, je vous laisse imaginer. Luc, chapitre 11. La religion que Jésus n'aime pas. Alors, on va lire plusieurs versets à la fois. À partir du verset 37. Et la première caractéristique de la religion que Jésus n'aime pas, c'est la religion qui se contente de la superficialité. Je lis Luc 11, verset 37. Pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita à dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Faites plutôt don de ce que vous avez à l'intérieur, et alors tout sera pur pour vous. » Jésus est invité à table, c'est formidable. Jésus a accepté l'invitation, c'est formidable. Mais tout va mal parce que Jésus ne sait pas laver les mains. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était tout un art de se laver les mains à table. Il y avait des jarres d'eau exprès et on prenait une pichet et on arrosait les mains depuis les doigts jusqu'au poignet. On prenait le poing. On se lavait comme ça, et puis encore, on a s'arrosé les mains pour se laver. C'était tout un art, et Jésus ne l'a pas fait. Alors, à l'époque, il ne se lavait pas seulement les mains avant un repas, mais entre chaque plat. Alors, vous imaginez, si on faisait ça en France, avant l'apéritif, on fait le rite. Après l'apéritif, on recommence. Après la première entrée, on recommence. Après la deuxième entrée, on recommence. Après le plat de viande, on recommence. Après le plat de poisson, ou est-ce qu'on met le poisson avant la viande? En tout cas, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Bon, quelle histoire. Mais c'était la coutume à l'époque. Et Jésus, eh bien, on lui fait des reproches. Alors Jésus se tourne vers le pharisien et vers les pharisiens, qui étaient un groupe de personnes très religieuses, et il lui dit, mais écoutez, vous vous occupez trop de ce qui est extérieur au lieu de s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Autrement dit, vous pensez trop à soigner votre look au lieu de soigner votre cœur. Autrement dit, vous les pharisiens, pour vous, la forme est plus importante que le fond. Autrement dit, l'apparaître est plus important que l'être. Autrement dit, ce qui se voit est plus important que ce qui ne se voit pas. Rappelez-vous ce que nous lisons dans 1 Samuel. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et c'est le cœur qui compte. Et Jésus s'en prend à ceux qui pensent que c'est l'extérieur qui prévaut. Tandis que l'extérieur, même si elle a une certaine importance, c'est le cœur qui compte. Un autre jour, lors d'une discussion de ce type avec des gens religieux, Jésus dit dans Marc 7, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. C'est ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Même si c'est important de se laver et de se doucher une fois de temps en temps, tous les 6 mois, ça, c'est normal pour un ado. 3 fois par jour pour un adulte, c'est normal aussi. Mais c'est important. Mais ce qui compte, c'est le cœur. Il y a un lien entre la superficialité et l'hypocrisie. Être superficiel, c'est pas très profond. C'est un peu le contraire de l'histoire de l'arbre avec 33 mètres de racines. Ça, c'est profond. Mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont superficiels. Et pour eux, c'est l'extérieur qui compte. Et nous devons veiller à ce que nous ne tombions pas dans ce piège. Parce qu'il y a 2000 ans, c'était un risque. Et en 2015, c'est aussi un risque. On peut chercher à apparaître comme étant quelqu'un. Lorsque l'être, c'est autre chose. Il vaut mieux être authentique, vrai, sincère, que de jouer à l'hypocrite. On nous dit parfois, moi je ne vais pas à l'église parce que l'église est pleine d'hypocrites. Alors parfois c'est vrai, mais c'est à nous de montrer que non, on est authentique, on veut être vrai. L'apparaître, l'apparence, ce n'est pas ça qui compte, c'est le cœur qui compte. Être vrai avec Dieu, être vrai avec les autres. J'ai entendu des gens, j'ai suivi pas mal d'églises, pas mal de personnes, j'ai été dans des églises où des gens peuvent prier les plus belles prières qui existent, avec un vocabulaire riche. Ah, ils citent verset biblique après verset biblique après verset biblique, même des versets dont je ne connaissais même pas leur existence. Mais parfois, ces gens-là, l'apparence, c'est formidable. Mais quand on creuse, parfois leur cœur est loin de Dieu. Vous savez ce que Isaïe a dit au chapitre 30, ce 29, pardon, « Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Un reproche au peuple de Dieu par la bouche d'Isaïe de la part de l'Éternel. On peut honorer Dieu par nos lèvres, mais notre cœur peut être loin de Dieu. Dans l'Apocalypse, Jésus écrit à l'église évangélique de Sardes et il dit, « Je connais tes œuvres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Les amis, Jésus n'aime pas la religion qui se contente de la superficialité. On peut passer pour être vivant, mais parfois on est mort et on doit vivre une vie authentique. C'est pour ça que je dis être véridique, chasser le mensonge. Être authentique, chasser l'hypocrisie. Être sympathique, chasser l'antipathie. Première chose. Deuxième chose, verset 42, un deuxième aspect de la religion que Jésus n'aime pas. Verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque plante, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait pratiquer, sans pour autant négliger le reste. Jésus rejette la religion qui accorde trop d'importance à l'argent. Ici, nous avons le premier d'une série de malheurs. De temps en temps, on trouve ce texte, ce verbe ou cette phrase, « malheur à ». On le trouve dans l'Ancien Testament, on le trouve dans le Nouveau Testament. Il y a Ésaïe qui prononce des malheurs sur le peuple de Dieu et sur les gens qui n'étaient pas croyants. On trouve Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Michée, Sophonie, Zacharie, parmi d'autres. Dans leurs écrits, il y a cette idée « malheur à ». Un des plus célèbres, c'est Ésaïe qui dit « malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Et Michée répète cette même chose dans le livre de Michée. Eh bien, dans les évangiles, Jésus prononce des malheurs. Dans les écrits de Paul et Jean aussi, il y a des malheurs à. Le tout premier malheur à quelqu'un, c'est Salomon qui l'a dit lors d'un grand jour de culte. Malheur à nous si nous nous éloignons de l'Éternel. Eh bien, Jésus ici dit « malheur à vous parce que vous pensez trop à la collecte ». Alors, il faut savoir qu'à l'époque, dans le temple de Jérusalem, il y avait des troncs. Il y avait 13 troncs dans la salle, dans le temple. Et chaque tronc avait la forme d'une trompette à l'envers. Et on les appelait les trompettes. Et le contenu de chaque tronc était destiné à quelque chose. Pour un tronc, c'était pour acheter des habits des sacrificateurs. Pour un tronc, c'était pour acheter à manger aux orphelins et aux veuves, etc. etc. Et parfois, il y avait trop d'accent mis sur la collecte, sur les troncs, sur ce que les gens donnaient. Même parfois, les pharisiens, quand ils venaient au culte, au temple, ils brandissaient les billets qu'ils allaient mettre dans le tronc pour que tout le monde voit qu'est-ce qu'il est bien, cet homme-là. Tous les sous qu'il met pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la superficialité, l'orgueil et tout le reste. Alors, c'est sûr, l'argent a de l'importance dans une église locale. On ne peut pas vivre sans argent. Mais il faut toujours qu'on trouve l'équilibre dans notre façon de parler de l'argent et de gérer notre argent. Le reproche que Jésus fait, c'est que vous parlez trop de l'argent et vous négligez la justice et l'amour. Jésus parle parfois, et surtout dans l'Ancien Testament, il est question de ce qu'on appelle la dîme. Alors il y a parfois une confusion entre la dîme et la collecte. J'ai découvert ça quand je suis arrivé dans le Pas-de-Calais. Beaucoup de chrétiens parlaient de la dîme. Oh, oui, on donne la dîme dimanche prochain. Oui, il y a la collecte et c'est la dîme. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que la dîme dans la Bible, c'est 10% du salaire. Mais ces chers chrétiens parlaient juste de leur collecte hebdomadaire, qui donne 10%, plus ou moins. Pour eux, la dîme, c'était la collecte. Ou la collecte était la dîme. Mais il faut juste distinguer entre le fait que la dîme, c'est 10% qu'on peut donner, on peut donner plus, ou il y a la collecte. Et ce n'est pas spécifié dans le Nouveau Testament qu'on doit donner 10%. Mais on doit trouver l'équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on garde. Et de toute façon, quand on donne quelque chose, est-ce qu'on va le faire mettre dans le bulletin de l'Église qui est donné quoi chaque mois? Est-ce qu'on va demander au président du culte de l'annoncer dimanche prochain? Eh bien, on a des gros chèques d'un tel, d'une telle. Bien sûr que non. La discrétion. Que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. Que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite. La discrétion par rapport à l'argent. Entre parenthèses, il y a un verset biblique qui est très souvent cité, même par des non-chrétiens, mais qui est très souvent mal cité. Je vais vous citer la façon dont beaucoup de gens citent ce verset biblique. Vous allez me dire si j'ai bien cité ou si je me suis trompé. C'est 1 Timothée 6. L'argent est la racine de tous les maux. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est l'amour de l'argent. Beaucoup de gens disent, oh, l'argent, c'est la racine de tous les maux. La Bible ne le dit pas. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est John Wesley qui avait l'habitude de dire qu'un chrétien a besoin de deux conversions. La première, c'est son cœur. La deuxième, c'est son portefeuille. En tout cas, un très bon livre par rapport à l'argent, c'est « Dieu et mes sous » de André Adoul, qui donne des bons principes. Mais si on se concentre trop sur l'argent, bien le Seigneur ne veut pas de ça. La justice et la vérité valent beaucoup plus que les millions ou les milliards qu'on peut avoir. Troisième caractéristique de la religion que Jésus n'aime pas, c'est la religion qui se tait face à l'orgueil des chefs. Verset 43-44, je lis, Jésus parle toujours. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez occuper les sièges d'honneur dans les synagogues et être salués sur les places publiques. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Encore les pharisiens sont la cible de ces condamnations de la part du Seigneur Jésus. Ils avaient des places assises, des places spécialement réservées pour eux dans les synagogues et dans le temple. Beaucoup de gens étaient sur des bancs en bois, mais eux, ils avaient, on va dire, des fauteuils. J'allais dire style Voltaire, mais les fauteuils Voltaire n'existaient pas à l'époque, je crois. Mais en tout cas, ils avaient les meilleures places. Et quand on croisait un pharisien le jour du marché, ou en allant faire ses courses, on devait montrer avec des courbettes et tout le reste notre respect pour lui. Et les pharisiens se réjouissaient parce que tout le monde se mettait à genoux devant eux. Et bien sûr, ça encourage l'orgueil. Le Seigneur s'en prend à eux pour dire, ben non, non, non. Si on est silencieux devant l'orgueil des chefs, eh bien, ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans l'épître de Jacques, Jacques parle des préjugés sociaux dans les églises, en disant que si un riche arrive, si un pauvre arrive, il faut un accueil égal pour le riche, pour le pauvre, pour la personnalité très connue ou pour la personne anonyme. Le même accueil, le même amour pour l'un et pour l'autre. Est-ce concevable dans nos églises évangéliques qu'on a des places d'honneur? Dans mon pays natal, il y a dans certaines églises des places d'honneur réservées pour le seigneur du coin. Et le Seigneur vient au culte, il a un balcon spécial avec les noms de tous ses prédécesseurs. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais plutôt que non, mais en tout cas, c'est une façon de faire. Mais dans nos églises, on doit veiller à ce qu'on est tous égaux devant le Seigneur. J'ai vu le contraire de ça il y a quelque temps. J'étais en visite dans une église, on faisait une colo et on a emmené les enfants à cette église. Je n'étais pas l'orateur. Et puis, c'est une église qui avait fait beaucoup de travaux et qui avait coûté beaucoup d'argent. Et donc, le président était en train de présider. On était dans l'église, la salle était assez pleine. Et puis, un monsieur âgé arrive après le début du culte et commence à descendre l'allée pour se mettre devant. Et puis, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, le président dit, et je cite plus ou moins, contexte, beaucoup de travaux, beaucoup de dépenses. Il se tourne vers le prédicateur et dit, dégagez-vous, mettez-vous là-bas, parce que ce monsieur, vous savez, il n'a pas pu venir travailler, mais il a beaucoup donné. Donc, donnez-lui une bonne place ici. Alors, beaucoup de gens dans l'église étaient outrés, choqués. Et moi, j'ai tout compris, cet homme a fait beaucoup de dons à l'église, c'est formidable, mais le président manquait de quoi? De sagesse, de savoir-vivre, de savoir-faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il manquait de sagesse et il voulait honorer ce monsieur. Et quand il s'est adressé au prédicateur, « Dégagez-vous !» Bon, en tout cas, le prédicateur s'est déplacé pour que ce monsieur âgé puisse s'asseoir. En tout cas, nous voyons dans certaines religions et dans certaines sectes que les responsables ou les chefs ou les gourous aiment beaucoup recevoir l'honneur, les honneurs. Ils aiment beaucoup que des gens se prosternent devant eux pour les adorer. Et Jésus dit, ce n'est pas ça que je veux. L'orgueil des chefs, c'est out. Non, il faut rejeter. Et c'est quelque chose, c'est un problème qui existait aussi dans l'Église du premier siècle. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, qu'est-ce que Corneille a fait? À genoux, devant le grand apôtre Pierre. Et Pierre a dit ces paroles formidables, lève-toi. Moi aussi, je ne suis qu'un mec. Ah pardon, un homme. Je ne mérite pas que tu te prosternes devant moi. Si vous voyez des chrétiens évangéliques qui aiment que des gens se mettent à genoux devant eux, eh bien, faites attention. Alors Jésus dit à ces gens-là, vous êtes comme des sépulcres, comme des tombeaux. Et vous rendez impurs tous ceux qui rentrent en contact avec vous. À l'époque, on pouvait marcher sur les tombes. J'étais à Madagascar il y a quelques années pour donner des cours dans un institut biblique. Et je marchais à la campagne, là où j'étais, on marchait sur les tombes. On ne savait pas que c'était des tombes. Mais à l'époque, si on marchait sur une tombe, on devenait impur. Et Jésus fait la comparaison, mais vous, les chefs religieux, vous êtes comme les tombeaux. Et les gens qui viennent en contact avec vous, vous les rendez impurs. Nos chefs religieux, nos responsables d'église doivent rendre des gens purs et pas impurs par les contacts. Quatrièmement, la religion qui impose des fardeaux difficiles à porter. Luc 11, 45-46. Un des professeurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Ils se sentaient visés. Et ils étaient visés par Jésus. Verset 46. Jésus répondit, « Malheur à vous aussi, professeurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, que vous ne touchez pas vous-même d'un seul doigt. » La religion qui impose des fardeaux difficiles à porter. Il y a des religions et des sectes aujourd'hui qui imposent, qui obligent certaines choses à leurs adeptes. Et Jésus dit à ses chefs religieux, les juifs, mais vous imposez des choses que vous, vous n'allez même pas faire. C'est comme si dans nos églises évangéliques, on a imposé que les hommes viennent au culte avec un costume trois pièces, avec une belle cravate, mais d'une couleur pas trop vive. Et que les femmes arrivent au culte toutes avec un chapeau à la Lady Di ou Lady Diana. C'était un peu à l'époque, la princesse Diana avait toujours un beau chapeau pour chaque sortie. Et on disait, ah oui, les femmes doivent s'habiller comme ça. Mais si on oblige cela, c'est un fardeau. Et le Seigneur ne veut pas qu'on impose des fardeaux non bibliques à des gens. Le Seigneur dit, venez à moi. On a chanté hier soir, tel que je suis. Je viens à toi. On peut, en tant qu'église évangélique, être tenté d'imposer des choses, mais non, le Seigneur ne va pas nous demander d'imposer certaines choses. Il nous demande d'accueillir, d'aimer et d'annoncer la bonne nouvelle à quiconque. Numéro 5, la religion que Jésus n'aime pas, la religion qui persécute les envoyés de Dieu. Verset 47. Malheur à vous, vous qui construisez les tombeaux des prophètes que vos ancêtres ont tués. Ça, c'est l'hypocrisie. Ils construisent des tombeaux, mais leurs ancêtres avaient tué les vrais prophètes. 48. Vous rendez donc témoignage aux actes de vos ancêtres et vous les approuvez, car eux, ils ont tué des prophètes et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres, afin qu'ils soient demandés compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. Jésus touche ce thème dans une ou deux paraboles dans les évangiles. Mais Jésus est sans pitié envers ceux qui tuent les envoyés de Dieu. Pas besoin de faire un tableau aujourd'hui et depuis des siècles. Les envoyés de Dieu sont maltraités, persécutés, rejetés, torturés, tués. Et le Seigneur rejette tous ceux qui agissent ainsi. Et il est écrit, il sera demandé des comptes à ces gens-là. Alors on nous dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas que les chrétiens soient persécutés? Eh bien, regardez le livre de l'Apocalypse, chapitre 5 jusqu'au chapitre 17. Et vous allez voir qu'un jour, tout sera réglé. Tous seront jugés. On dit que la semence, que le sang des martyrs est la semence de l'Église. C'est le cas dans beaucoup de pays où des chrétiens ont donné leur vie, mais la semence a été plantée. Et ça a porté du fruit, parfois une génération, deux générations plus tard. Mais le Seigneur tiendra compte de la fidélité de ses serviteurs fidèles. Et la sixième et la dernière chose, Jésus n'aime pas la religion qui empêche les gens de se convertir. Verset 52, « Malheur à vous, professeurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. » Vous n'êtes pas entrés vous-même, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Il y a deux catégories de chrétiens, on peut dire. Il y a des chrétiens qui encouragent des gens à se convertir. Il y a d'autres qui, par leur vie ou leur parole, empêchent les gens de se convertir. Ou découragent les gens de se convertir. Parce que les inconvertis disent... Mais si je vais me convertir, si je vais être comme lui ou comme elle, je ne veux pas me convertir. Parce que sa vie est comme ceci, comme cela. Est-ce que vous êtes dans la catégorie qui encourage? Ou est-ce que vous êtes dans la catégorie qui empêche, qui décourage les gens de se convertir? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont convertis grâce à vous? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ne se sont pas convertis à cause de vous? C'est de ça que Jésus parle ici. Vous fermez la porte à des gens. Nous devons être ceux qui encouragent les gens, pas seulement à venir au culte, mais à lire la Bible, à se tourner vers le Seigneur et recevoir la vie nouvelle en Jésus-Christ. J'aime bien le message de Zacharie au chapitre 8 dans sa prophétie dans l'Ancien Testament. Quand il dit au peuple de Dieu, un jour, vous allez aller au culte et plusieurs personnes vont s'agripper à tes habits pour aller avec vous au culte et ils vont dire, je vais avec vous parce que je sais que Dieu est avec vous. Zacharie 8, 23, je paraphrase. Mais c'est ça l'idée. Des gens qui sont tellement rayonnants du Seigneur que des gens veulent les suivre et ils se tiennent à leurs habits pour ne pas les perdre pour aller au culte. Je peux vous confesser que je n'ai jamais eu cette expérience pour l'instant. Peut-être vous non plus. Mais j'aimerais bien l'avoir. Et j'aimerais bien prier, Seigneur, que tu nous aides à être des témoins pour qu'on puisse ouvrir la porte. Même si parfois par nos bêtises, il y a des gens qui s'éloignent ou qui sont découragés. Mais on doit prier, Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui ouvre la porte pour que des gens aient envie de venir vers toi. Je termine avec une dernière diapo. Et je veux finir sur une note positive. J'espère que je ne vous ai pas tous déprimés depuis le début de mon message. Mais puisque j'ai parlé des éléments de la religion que Jésus n'aime pas, brièvement, quatre éléments de la religion que Jésus aime. Ou quatre caractéristiques chez les chrétiens que le Seigneur Jésus aime. Courage, endurance, camaraderie, sacrifice. Ces quatre mots font partie d'une inscription sur un monument de guerre sur une île au milieu de l'océan Pacifique pour honorer des centaines, voire des milliers de soldats australiens qui avaient donné leur vie pour garder, protéger cette île des forces japonaises. Ils ont gardé cette île. Et des années plus tard, les autorités ont mis un monument avec ces paroles pour résumer ce que ces soldats ont accompli. Courage, endurance, camaraderie, sacrifice. Courage. Un chrétien a toujours besoin d'une bonne dose de courage. On peut facilement être découragé, mais on a besoin d'être encouragé et d'encourager les autres. Vous aurez besoin de courage demain matin, moi aussi, et mardi matin, et mercredi matin. Courage. Endurance. Il s'agit de persévérer dans la persévérance. Est-ce que vous êtes fort dans la persévérance? Vous savez, un des mots traduit persévérance dans la Bible, c'est lié à l'idée d'avoir un poids sur la poitrine. On est allongé, le poids est sur la poitrine et on continue à respirer, malgré tout. Et parfois, les chrétiens sont appelés il est toujours appelé à persévérer malgré le poids ou les poids, les fardeaux, les afflictions, les pressions. Endurance, persévérance. Troisièmement, camaraderie. Eh bien, il s'agit là de la vraie communion fraternelle. On est frères et sœurs ensemble. La communion fraternelle. Le mot en anglais pour communion fraternelle, c'est le mot fellowship. Et c'est deux mots différents. Fellow, c'est des gens. Et ship, c'est un bateau. Et c'est l'idée des gens qui font un voyage ensemble. Et qu'est-ce que c'est une église? Ah ben, vous êtes des gens, vous faites un voyage ensemble. Et le Seigneur vous demande de collaborer, d'être camarades, d'être frères et sœurs ensemble. Pour citer Paul, il parle d'amis qui sont des compagnons dans le service du Seigneur. Et même si le mot camarade et compagnon ont été employés à tort et à travers par toutes sortes d'idées et d'idéologies, nous sommes camarades, compagnons, frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu. Et puis, sacrifice. Le Seigneur nous demande d'être des disciples. Et être un disciple veut dire pas seulement faire des sacrifices, mais avoir un esprit de sacrifice. Et ce qu'on donne, ce qu'on perd, le Seigneur n'oubliera jamais ce qu'on a donné, ce qu'on a perdu. Il n'oubliera jamais les sacrifices qu'on aura faits en son nom. Alors que le Seigneur fasse de nous des gens courageux, des gens marqués par l'endurance, la camaraderie et avec un esprit de sacrifice. Et je peux vous dire que ces gens-là, le Seigneur les agrée, les accepte et les aidera. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est claire. Tu nous dis ce que tu aimes, tu nous dis ce que tu n'aimes pas. Aide-nous, Seigneur, à aimer ce que tu aimes. Aide-nous à rejeter ce que tu rejettes. Et fais qu'on puisse être marqué par un esprit de sacrifice, de camaraderie, d'endurance et de courage. Au nom de Jésus, Amen.